Chapitre 24. Comme tous les dimanches après déjeuner, Madame Belloquet était assise sur un banc à barreaux verts, placé à côté de la porte d'entrée de son bureau. Elle était là en grande toilette, la toilette des dimanches. Robe de taffetas noir, col et manches de dentelle, chaîne d'or au corsage, bracelet au poignet, bagues aux doigts. Les enfants, en dimanches aussi, jouaient dans la rue. Et, autour d'elle, trois voisines, dans leurs plus beaux atours, faisaient cercle en discourant avec une animation tout à fait extraordinaire. C'est que ce qui se passait devant elle était extraordinaire aussi et réellement de nature à provoquer des discours. De l'autre côté de la rue et juste en face, des ouvriers étaient occupés à peindre sur la façade d'une grande maison une enseigne dont la première ligne était seule achevée. Simon Belloque. Tandis que, sur la porte de cette maison, un serrurier achevait de visser une belle plaque de cuivre, toute flamboyante, sur laquelle on lisait le même nom, Simon Belloque. « Ainsi, disait l'une des voisines, il vient vous faire concurrence à votre porte. »« C'était hier, répondit une autre, qu'il a loué la maison de ce pauvre Nicole, et déjà les ouvriers sont à l'ouvrage. Ne dirait-on pas que Nicole a fait faillite à point pour lui céder ses magasins ? Quand mon mari m'a dit que Simon Belloque avait signé ce bail, j'ai cru qu'il rêvait. C'est la réplique au procès que le conseil de famille de notre cousine lui intente, dit Stélanie. Comme si nous étions responsables de ce procès, il veut se venger de nous. Est-ce assez misérable ? Personne ne répondit. Puisque Belloque venait s'établir à Criquefleur, il fallait avoir de la méfiance. Avec un homme comme lui, on ne pouvait pas savoir ce qui arriverait. « Je comprends pourquoi cette pauvre jeune fille reste enfermée, » dit une autre. « Je me demandais comment elle ne quittait plus sa chambre, elle que nous voyons toujours près de vous à son arrivée ici. Elle n'ose pas se montrer. Pauvre enfant, est-ce horrible un pareil malheur ? Cela lui sera mauvais de ne pas sortir. »« Que voulez-vous que je lui dise pour la décider ?» demanda Stélanie. « Quand elle ne voit personne, elle est moins malheureuse. Au moins, elle n'a pas à rougir. » « Et si elle devient malade de ne pas sortir ? Et si elle se tue de désespoir ? Hélas, mon Dieu, en est-elle là ? Qui ne perdrait pas tout courage dans sa position ?» À ce moment, elle vit Paulin apparaître au bout de la rue. Il marchait à pas rapides. « Ah, voilà le commis de M. Belloque, » dit l'une d'elles. « Il paraît que ça presse. » Mais elle se trompait. Paulin ne tourna même pas la tête du côté de la maison que son patron faisait aménager. Il vint droit sur Madame Belloquet. « C'est à vous qu'il a affaire, ma chère. Nous vous laissons. » Mais ce fut à regret qu'elles s'éloignèrent, et lentement. Que pouvait vouloir à Madame Belloquet le commis de Belloque ? Au point où en étaient les choses, n'y avait-il pas dans cette visite de quoi provoquer la curiosité ? La voix de Paulin était si profondément altérée que Stélanie comprit, plutôt qu'elle n'entendit, qu'il lui demandait un entretien particulier. Elle passa devant lui et le conduisit dans la salle où déjà elle l'avait reçu, curieuse, elle aussi, de savoir ce qu'il voulait. Il resta un moment sans parler, paralysé par l'émotion, bien plus que par l'embarras de ce qu'il avait à dire. « On vient de m'apprendre qu'on fait un procès à M. Simon Belloque, » dit-il enfin. Et avant de rien croire, j'ai voulu vous demander si cela était possible. » Elle laissa tomber ses bras sans répondre autrement. « Alors, c'est vrai ? Hélas ! Je vous en conjure, madame, répondez-moi sans pitié, le doute me rend fou. » « C'est vrai. Et la cause de ce procès est celle qu'on dit ?» Il était tremblant, décoloré en posant cette question, et c'est en sifflant que les mots passaient à travers ses dents serrées. Puisqu'il demandait la vérité, il n'y avait qu'à la lui dire. Le temps n'était plus où Stélanie bâtissait de si beaux projets de vengeance sur le mariage de Paulin avec Marichette. Ce mariage était désormais impossible. Et Paulin l'accepta-t-il encore quand même et malgré tout, qu'elle, de son côté, n'en voudrait plus ? C'était par le procès qu'elle avait la certitude d'arriver maintenant à son but, non par le mariage. Par ce procès, elle inspirait une haine féroce à Simon contre Marichette, et le mariage avec Paulin ne pourrait rien ajouter à cette haine. À la vérité, il pouvait être une consolation pour Marichette. Mais ce n'était pas là une considération qui pouvait la toucher. Que lui importait que Marichette fût ou ne fût pas consolée? Son intérêt n'était-il pas, au contraire, qu'elle fût désespérée? Peu à craindre, elle est désespérée. Ou ils meurent à la peine, ou ils disparaissent. Ils se sauvent, ils se cachent, ils font le plongeon et se noient sans qu'on n'entende plus jamais parler d'eux. « Vous êtes bien certain, n'est-ce pas ? » dit-elle d'un ton désolé. « Que lorsque je me suis ingénié à vous rapprocher de Marichette et à assurer votre mariage, j'ignorais ce qui s'était passé. Je croyais qu'il n'y avait eu entre elle et ce misérable que la scène du carreau cassé. Malheureusement, avant celle-là, il y en avait eu une autre ou d'autres. Vous comprenez ?» La question était au moins inutile, car à la pâleur de Paulin, il était facile de voir qu'il comprenait, il ne respirait plus. « Qu'est-il alors arrivé ? » dit-elle en continuant. « Je ne sais pas au juste. » Après un court moment d'hésitation, il jeta ses deux mains en avant comme pour lui fermer la bouche, et le geste était si parlant qu'elle ne put pas se tromper sur son sens. « Vous ne voulez pas savoir, dit-elle, vous avez raison. Que ce soit comme ceci ou que ce soit comme cela, ce n'est pas ce qui peut changer les choses et faire que la pauvre enfant ne soit enceinte. » Toute cette phraséologie entortillée avait dû le préparer à cette conclusion. Cependant, en recevant ce coup, il chancela et pâlit encore, au point qu'elle crut qu'il allait avoir une défaillance. Elle fit un pas vers lui. « Allez-vous donc vous trouver mal ? » demanda-t-elle. Ces quelques mots le relevèrent. Il ne devait pas s'abandonner et donner sa douleur en spectacle. « J'aurais été coupable envers mon amour d'admettre... » Il chercha son mot, ne pouvant pas, malgré son bouleversement, se décider à parler tout haut de grossesse. D'admettre ces choses, d'après des bruits venant on ne sait d'où. Voilà pourquoi j'ai voulu m'adresser à vous. « Hélas, mon pauvre monsieur, je ne puis vous dire que la vérité. » Il fit quelques pas vers la porte, puis revenant. « J'ai encore une prière à vous adresser, dit-il, c'est à propos de cette visite. » « Croyez bien que je vous plains de toute mon âme et que ce que je pourrai faire pour vous prouver ma sympathie, je le ferai. Eh bien, je voudrais qu'elle ne sût pas que je suis venu. Je vous promets de ne pas le lui dire. Adieu, madame. » Comme il passait devant les voisines qu'il avait vues entrer et qui guettaient sa sortie, celles-ci conclurent de son attitude affolée et de sa marche désordonnée qu'il avait dû se passer des choses bien graves entre lui et Madame Belloquet. Aussi toutes, d'un même mouvement, revinrent-elles en hâte autour du banc au barreau vert où Célanie ne tarda pas à les rejoindre avec un visage compassé qui n'annonçait rien de bon pour la satisfaction de leur curiosité. « Alors, la paix n'est pas faite ?» demanda l'une d'elles. « Pas du tout. Ce fut tout ce qu'elles purent en tirer. » Cependant, Paulin avait continué son chemin, marchant dans son cauchemar sans rien voir, sans rien entendre autour de lui, et il avait ainsi gagné le haut de la falaise. Là, il se laissa tomber sur l'herbe, écrasé. L'endroit était désert. En cette journée du dimanche, il n'y avait personne au champ, il pouvait pleurer à son aise et s'abandonner à la prostration qui anéantissait tout en lui. Force physique et volonté, le corps et le cœur. Ce fut le soir seulement qu'il rentra. Sa mère, qui l'attendait dans une angoisse mortelle, fut épouvantée en apercevant son visage convulsé. Il vint à elle et l'embrassa. « Maman, dit-il, je vais te causer un grand chagrin, mais je suis certain que tu l'accepteras par tendresse maternelle, en comprenant combien j'ai besoin de cette tendresse. Il faut que nous partions d'ici, ainsi qu'il avait été convenu autrefois. Je ne peux pas rester dans ce pays. Je ne peux pas voir cet homme. Je ne peux pas écouter ceux qui me parleraient de choses que je ne peux pas entendre. Si tu ne veux pas que j'en meure ou que j'en devienne fou, il faut que je puisse me jeter dans le travail à corps perdu. « Quand veux-tu que nous partions ? » dit-elle simplement. « Demain. » « Nous partirons. Justement, la vache est vendue. Je porterai les volailles demain au marché. Tu m'aideras ensuite à emballer ce que nous devons emporter. » Dans la nuit, au lieu de se coucher, il voulut écrire à Marichette, mais il ne put rien trouver à dire. Ou elle était coupable, et alors elle ne méritait pas un adieu. Ou elle ne l'était pas, et cet adieu serait une nouvelle douleur pour elle. C'était la fatalité qui les séparait. Ni elle ni lui ne pouvaient rien contre cette fatalité qui brisait leurs deux vies.